J'ai l'impression que c'est mon cœur qui est là, c'est mes racines, c'est vrai ce que je dis. C'est quoi l'âme arménien? Pour moi, c'est une sorte de feu, quoi. Une flamme qui brûle.
L'homme peut-il contrôler sa destinée? C'est la question à laquelle j'espère trouver une réponse.
Jukebox.
Des histoires en musique.
Oh, le futur est déjà écrit, il est irrévocable, on ne peut pas le changer.
À bon Richardo.
Une page d'histoire arrachée au temps, mise en récit par un texte, des archives et des musiques choisies chaque samedi à 19h sur France Culture. Voici Jukebox. Ce soir, voyage en Arménie, pays des flammes qui brûlent comme des sémaphores, des mémoires ardentes et des plaies ouvertes. L'Arménie, ancien royaume florissant, changé au cours des siècles en une petite république montagneuse enclavée au sud du Caucase, au gré des conquêtes et des appétits de ses voisins byzantins, perses, ottomans, russes, soviétiques, puis azéris. Traumatisée par le génocide commis par les Turcs en 1915, l'Arménie s'était forgée une identité dans ses pertes successives et la coexistence de ses mémoires diverses, celles de ses habitants de l'intérieur et celles de son immense diaspora. Grand pays de tradition musicale depuis le répertoire ancien, exhumé par le prêtre Komitas jusqu'au jazz ou aux échos pop de ses exilés, l'Arménie déroule ses passions, ses fiertés et ses rêves brisés. Ce soir, l'Arménie, des montagnes de chagrin. Ici, la légende raconte que lors de la création du monde, Dieu, qui avait oublié les Arméniens, aurait joué du tamis au-dessus de la surface du globe pour faire tomber sur place ce qui lui restait dans sa besace, un tas de pierres. Ainsi était née l'Arménie, Ayastan dans la langue locale que bientôt ses habitants avaient surnommé Karastan, le pays des pierres. Autour, de fait, ce ne sont que roches et montagnes, lesquelles confèrent au paysage une noblesse brute, un tableau minéral composé de falaises abruptes et de rochers balayés par les vents. Une beauté éruptive aussi, celle des volcans qui en parsèment l'horizon. Des volcans certes endormis, mais qui confèrent à cette nature majestueuse ses coulées de lave et ses orgues de basalte, une sorte de menace souterraine. Si l'on regarde vers le nord, il y a le mont Aragats et ses 4000 mètres d'altitude. Mais il y a surtout, plus à l'est, le mont Ararat, encore plus haut, avec ses neiges éternelles. L'Ararat, là où se serait posée l'Arche de Noé. L'Ararat, symbole vivant du pays confisqué depuis 1921 par le voisin turc, reproduit un peu partout et vers lequel se tournent naturellement les regards, comme l'inscription jusque dans le paysage, d'un déchirant sentiment de perte. C'est ce paysage de steppe que parcourt ce jour-là, au volant d'une vieille Mercedes aux amortisseurs fatigués, un homme dont le regard se brouille de larmes. Il n'est pas revenu sur place depuis si longtemps, et tandis qu'il roule parmi les herbes folles des hauts plateaux en direction de Yerevan, ses souvenirs ressurgissent comme le soleil joue parmi les abricots, les grenades et les raisins gorgés. Tout comme Dieu, pourtant, les hommes parmi cette nature souveraine semblent avoir disparu. Mais bientôt surgissent les premiers faubourgs, les alignements désespérés d'immeubles soviétiques avec leur linge aux fenêtres, les vieux qui jouent au nardi, ce backgammon local à l'ombre des vignes sauvages, et puis les gosses qui traînent trop tard dehors. Peu à peu, les fantômes s'estompent.
sudarti, battesi mia galassia. Tu lui se sudarti, battesi mia galassia. Tu sole sincerti, tu non es sincerti. La la la, i battes tu se. Im sirne sudare, neste, nesim okuiera, zier, nesim siro, al marie.
La joie de ce tout im Yerkeniyes par le chanteur Addis Amandian, arménien d'origine mais né au Liban en 1945, un titre publié en 1975. Raconter l'Arménie, c'est avant tout revenir sur une longue et inexorable perte. Avec ses moins de 30 000 km², l'équivalent de la Belgique, l'Arménie d'aujourd'hui ne correspond qu'au dixième de son territoire historique, formé 190 ans avant notre ère par le roi Artaxias Ier. Deux siècles plus tard, l'Arménie était devenue un immense empire, s'étendant de la mer Méditerranée à l'ouest jusqu'à la mer Caspienne à l'est. Au IVe siècle, elle était devenue le premier État officiellement chrétien. Les siècles suivants, le territoire se parsèmerait de monastères d'une beauté à couper le souffle. Mais l'Arménie devient alors un enjeu d'affrontement complexe entre l'Empire byzantin et l'Empire perse, et ce jusqu'à la conquête arabe au VIIe siècle. À partir du XIe, nombre d'Arméniens émigrent en Cilicie, au sud-ouest de l'actuelle Turquie, constituant là-bas un royaume qui disparaîtra en 1375, inaugurant les premiers exils et l'apparition d'une diaspora. Puis, à partir de la fin du XVe, la Grande Arménie aiguise les appétits ottomans et, trois siècles plus tard, pour se libérer de l'influence musulmane, les Arméniens font appel aux Russes qui conquièrent le Caucase, se posant en libérateur des chrétiens. Contesté de toutes parts, l'Empire ottoman riposte. Pour faire taire les revendications nationalistes, 2 à 300 000 Arméniens sont massacrés entre 1894 et 1896. Mais le pire restait à venir. Tandis qu'éclate la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman, qui a vu le parti nationaliste des jeunes Turcs prendre le pouvoir, l'Empire ottoman donc s'engage dans le conflit aux côtés des empires centraux, Allemagne et Autriche-Hongrie, contre la triple entente franco-russo-britannique. L'un des objectifs des Ottomans est en effet de récupérer certaines provinces de l'Est perdues au profit de l'Empire russe lors de la guerre de 1877. Les jeunes Turcs, qui décident bientôt de lancer une immense opération de répression envers les chrétiens et les arméniens de l'Empire, c'est le Metzgergern, le grand crime, le grand mal, l'indicible. Le 18 avril 1915, 60 000 Arméniens sont massacrés dans la région de Van, au sud-ouest de Yerevan. Dans ces provinces orientales de l'ancienne Arménie, dans l'est de l'actuelle Turquie, le gouvernement procède à des arrestations de masse au motif de prétendus complots contre le gouvernement. Des centaines de milliers d'Arméniens sont déportés vers les déserts de Syrie et de Mésopotamie. Femmes, enfants et personnes âgées sont envoyées à pied, quasiment les mains vides, dans les terribles marches de la mort. Témoignage d'un survivant diffusé sur Antenne 2 en 1985.
Mais comment est-ce qu'on vivait dans le désert? Comment est-ce qu'on pouvait survivre?
Il n'y avait rien à manger. Il y avait de l'herbe. On mangeait de l'herbe. Parfois, au bord de l'eau, il y avait des Arabes. Par chance, mon père parlait l'arabe, le kurde. Il allait mendier auprès d'eux. Donnez-moi quelque chose. Donnez-moi un peu de blé, de l'orge. Il donnait parce qu'il avait la chance de parler. Les autres mouraient. On marchait constamment. On est passé par de tels endroits qu'il n'y avait même pas de terre par terre. Il n'y avait rien ne poussait. On est arrivé enfin dans une sorte de trou. Il y avait des cadavres à l'intérieur, une sorte de cuvette. On avait un âne avec nous. L'âne n'a pas voulu boire. Mais mon père, pour essayer, il a bu. Il est mort. Il n'est pas mort tout de suite. Oui, le deuxième jour, mon père ne marchait plus.
Et il a laissé son père.
Oui. Il a pris la patte de l'âne et il s'est mis à genoux et s'est mis à pleurer.
Et puis après, une
femme lui est venue et lui a dit, mais pourquoi tu pleures? Il dit, mon père, j'ai été obligé d'abandonner mon père un peu plus loin. Et nous avons poursuivi la route et j'ai poursuivi ma route tout seul.
Thank you.
Dele Yaman, chanson traditionnelle arménienne racontant l'amour tragique d'un couple, interprété ici en version instrumentale au doudouk, cette petite flûte, ce hautbois local taillé dans le bois de l'abricotier, interprété par Jivan Gasparian. Dele Yaman, un air traditionnel qui deviendra vite l'un des hymnes du génocide et qui avait été, comme tant d'autres, sauvé de l'oubli par le personnage central de la musique arménienne du début du XXe siècle, Komitas. Passionné depuis son plus jeune âge par la musique, Komitas, de son vrai nom Sogomon Sogomonian, s'était engagé très tôt dans une vie spirituelle, formé au séminaire, devenant diacre puis prêtre. Il s'était ensuite plongé dans la sauvegarde du folklore et du patrimoine musical des campagnes arméniennes, dont il avait recueilli, en ethnomusicologue, près de 3000 airs. Il avait ensuite rompu avec la vie monastique, devenant une sorte d'ambassadeur de la culture arménienne, notamment à Berlin ou Paris, composant par ailleurs ses propres œuvres, profanes ou religieuses. Début avril 1915, à la veille du génocide, il a 45 ans, c'est un érudit, respecté de tous, malgré une condamnation de l'Église arménienne pour avoir enregistré des œuvres religieuses sur les premiers gramophones. 3 semaines plus tôt, il a donné un concert remarqué à Constantinople. Le 24 avril 1915 au soir, Komitas s'est arrêté au cours d'une vaste rafle ordonnée par le ministre de l'Intérieur, Talat Pacha. Arrêté en compagnie d'environ 250 ecclésiastiques, médecins, éditeurs, journalistes, avocats, enseignants ou hommes politiques. En quelques jours, les arrestations touchent plus de 2300 notables arméniens. Déporté pendant plusieurs semaines, Komitas résiste en chantant inlassablement un hymne religieux du XVIIe siècle qu'il avait harmonisé des années plus tôt, Der Vogurmia, Seigneur, prends pitié. Détenu à 400 km de Constantinople, Komitas, à l'inverse de beaucoup d'autres déportés qui finiront massacrés, survivra. Libéré après quelques semaines, grâce à l'intervention d'un admirateur turc influent, il pourra rentrer chez lui. Il y trouvera sa bibliothèque pillée, tous ses documents jetés en vrac et la presque totalité de ses travaux personnels envolés, tout comme de nombreux précieux manuscrits relatifs au système de notation musicale arménien du XIe siècle. Bientôt, il sombrera dans la mélancolie, sera interné dans un hospice religieux de Constantinople, avant d'être transféré en mars 1919 dans un hôpital psychiatrique en France à Villejuif, où il s'éteindra en 1935. Au moment des faits, le gouvernement ottoman s'emploie systématiquement à détruire toute preuve de ses crimes. Les photographies des convois de déportés sont interdites, les missionnaires empêchés de porter secours aux rescapés, la censure officielle interdit aux médias de se faire l'écho des massacres. Dès le mois de mai 1915, toutefois, prenant la mesure des crimes, les gouvernements alliés avaient publiquement accusé la Turquie de crimes contre l'humanité et la civilisation. D'avril 1915 à l'automne 1916, le génocide des Arméniens par les Turcs fera, selon les estimations, entre 1,2 et 1,5 million de morts. On estime que n'en réchappe qu'un Arménien sur trois. Constituée en 1918 après la signature d'une paix séparée entre la Russie devenue léniniste et l'Empire ottoman, une éphémère première république d'Arménie voit pourtant rapidement ses espoirs douchés. Certes, au lendemain de la guerre, en 1920, le traité de Sèvres, qui entérine le démantèlement de l'Empire ottoman, lui attribue un vaste territoire, englobant notamment toute la partie est de l'actuelle Turquie. Mais le dit traité ne sera jamais respecté et en 1923, le traité de Lausanne, annulant le précédent, validera l'appropriation par la Turquie de l'essentiel du territoire en question. L'Arménie et ses 800 000 habitants, abandonnés par les Alliés, se replient alors sur ses montagnes et sur sa nouvelle capitale, Erevan, ou plutôt Yerevan, comme on la prononce là-bas. Yerevan, que rien ne prédisposait à devenir autre chose qu'une petite capitale de province. Construite sur 7 collines, forte de 30 000 habitants seulement en 1920, elle accueille nombre de rescapés du génocide et connaît alors une forte croissance. Dans les années 20, la ville est redessinée par l'architecte et urbaniste Alexandre Tamanian, une sorte de Haussmann local. Sous sa conduite, Yerevan se change rapidement en une grande ville moderne, ponctuée de larges avenues arborées et de nombreuses grandes places, à l'instar de la place de la République, mais aussi de l'opéra de Yerevan, tous faits de tuf rose, la pierre volcanique locale. Une radio est créée en 1925, un théâtre voit le jour en 1922, des studios de cinéma l'année suivante, et puis donc un opéra en 1933. Tout cela permet de raviver l'intérêt pour la langue arménienne. Mais cela, de nombreux Arméniens ne sont plus là pour le voir, ayant depuis des années pris le chemin de l'exil. Ainsi, la famille Aznavourian, qui, à Salonique, en Grèce, où elle a trouvé refuge, donne naissance au premier de ses deux enfants, Aïda, qui, quelques années plus tard, et depuis la France où la famille migrera, deviendra chanteuse, certes éclipsée par la renommée de son frère Charles, mais avec un beau timbre profond, comme dans ce Sirère qu'une chanson d'amour publiée en 57 et qu'elle interprète en duo avec son père, Micha.
Jivan yarı canim yarı minu yarı sırdof sidazim gol kozunig yarı canim yarı minu yarı sırdof sidazim gol kozunig yarı
traktoro var elem arda ardum zahkar dunim varta dunim varta seru zarta Te vor duga selince inde darta, dunim varta seru darta. Te vor duga selince inde darta.
Kağıtır yer kıt Kağıtır yer kıt Sirun tezi kıt Sırı dissenin el yarı Toğlini ber kıt Kağıtır yer kıt Sirun tezi kıt Sırı dissenin el yarı Toğlini ber kıt
Ardeni çoren Hase aska kez bes voske varse imuraza voske varse janim horu morgo bagan harsa imuraza voske varse janim horu morgo bagan harsa
Unkut kamaraj kut nushe
Meghru shakrit ser da nushe
Ser na nushe
Yar na nushe
Jan mer hayre ni yel gir na nushe Ser na nushe Yar na nushe Jan mer hayre ni yel gir na nushe Ser na nushe Yar na nushe
Aïda et Misha Aznavour, Sirerk, une chanson d'amour traditionnelle arménienne enregistrée vers 1953 et publiée en 57. L'Arménie était donc devenue soviétique. Cette entrée dans l'orbite de Moscou est bien acceptée au début, perçue comme une protection envers la menace du pouvoir turc. De plus, ce sont des Arméniens qui sont aux commandes, ce qui favorise le consentement de la population. En 1936, elle obtient le statut de République socialiste, membre de l'URSS, laquelle, à l'été 1941, était entrée en guerre contre l'Allemagne nazie. L'Arménie n'est pas occupée pendant le conflit, mais largement mobilisée dans l'armée soviétique. Sa population payera un lourd tribut, 170 000 morts sur une population totale d'1,3 million. Et puis il y a l'engagement des Arméniens en exil, comme celui d'Aram Khatchatourian, fils d'un émigré des années 1870 et qui, installé à Moscou, est alors l'une des figures marquantes de la nouvelle génération de musiciens. Sa musique exalte le folklore arménien. Il écrit des concertos pour piano, pour violon ou pour violoncelle. En 41, tout comme les autres artistes soviétiques, il est enjoint à participer à l'effort de guerre afin de célébrer la défense de la patrie et la lutte contre le fascisme. On lui commande un grand ballet patriotique. Il racontera plus tard « Malgré l'avance de l'ennemi, nous étions tous guidés par le désir de prouver que la vie culturelle ne devait pas s'arrêter, qu'il fallait continuer à créer des valeurs, que l'esprit du peuple était fort. Ce ballet qu'il composera dans la chambre d'hôtel froide d'un établissement de l'Oural, ce sera Gaïanet, l'histoire d'une jeune Arménienne, sur une musique traversée par une ivresse rythmique et une exubérance musicale. Gaïanet, dont l'histoire a notamment retenu la célébrissime danse des sabres, mais dont voici un autre air enlevé, celui de Lezginka. France Culture, Jukebox, ce soir, Arménie, le chagrin et la piété. Thank you. Extrait du ballet Gaïanais composé en 1942 par l'Arménien en exil Aram Khatchatourian, l'air de Lezginka, interprété ici par l'orchestre du Bolchoï. Dans les années 30 et 40, l'Arménie soviétique dispose d'une autonomie très limitée. Malgré une acceptation relative de la tutelle soviétique au début, on l'a dit, rapidement les choses changent. Certes, le retour de la paix et de la sécurité sont assurés, de même que le développement de l'éducation, mais des résistances se font jour envers la collectivisation agraire imposée de force à la paysannerie locale, ou bien contre les mesures de laïcisation introduites par le système communiste dans un pays qui aime à rappeler qu'il avait constitué jadis la toute première nation chrétienne. Ainsi, dès 1929 est interdite toute propagande religieuse. Surtout, bientôt, la terreur stalinienne s'abat. En juillet 36, Agassi Kandjian, l'homme fort du pays depuis une quinzaine d'années, est mystérieusement retrouvé suicidé à Tbilissi, dans le bureau de Beria, le futur chef de la police politique de l'URSS. La direction locale du PC est épurée. Des milliers d'arrestations ont lieu avant que les procès de Yerevan ne liquident l'intelligentsia locale. En 37, le grand poète national, Yegiche Tcharens, est envoyé mourir dans les caves du NKVD, lui qui, l'année précédente, avait écrit un poème prémonitoire clamant « Et enfin il s'apaisera, pour toujours, ton corps fatigué, devenu cendre fertile, transformé en pierre et en sève ». En 1938, c'est le chef suprême de l'Église nationale, Koren Ier, qui est étranglé par des mains policières. 2000 églises sont fermées à travers tout le pays. À Yerevan, l'abolition de la liberté de culte entraîne la sécularisation de la mosquée bleue, l'une des 8 mosquées de la ville construite au 18e. En 1952, elle abritera le musée d'histoire de la ville, mais aussi un planétarium. Bientôt toutefois, Staline meurt et, comme tout le reste de l'Union soviétique, l'Arménie respire un peu.
Thank you.
Formé aux États-Unis à Boston autour du musicien d'origine arménienne Barry Tashian, le groupe The Remains pour ce Don't Look Back de 1966. Pourtant, tant en exil qu'à l'intérieur, les Arméniens ont soif alors de se retourner sur leur passé et leur culture.
Aster, aster, yergim ki açker.
En 1959, sur les hauteurs de Yerevan, est ouvert l'imposant édifice du Matena d'Aran, la bibliothèque d'Erevan, rassemblant 17 000 manuscrits en langue arménienne, soit plus de la moitié de la production existant dans le monde, des ouvrages jadis conservés dans la ville sainte d'Ejmiadzin. Mais la mémoire arménienne, c'est évidemment et surtout celle du génocide commis par les Turcs. Tandis que toute commémoration du drame était bannie sur place au nom du très soviétique principe d'amitié entre les peuples, le 24 avril 1965, 1 million de manifestants défilent à Erevan au cri de « Justice ». Des troupes soviétiques sont envoyées sur place pour tenter de restaurer l'ordre. Afin d'empêcher de tels débordements, Moscou autorise la construction d'un mémorial qui verra le jour en 1967 sur la colline de Tsisternagaberd, dominant la capitale parmi les sapins, une pointe de granit de 40 mètres de haut rappelant la division entre l'Arménie orientale et celle devenue turque. La culture arménienne relève la tête, comme en témoignent les films étranges de Sergueï Parajdanov, comme dans Les Chevaux de Feu en 65, ou bien Sayat Nova, La couleur de la grenade, tourné au studio d'Erevan et sorti en 68, exaltant la culture arménienne millénaire et la poésie d'un poète national du 18e siècle, un film qui sera censuré.
İskizbane Astvats ararets yerkin u yerkir. U yer vetsirort ore yegav Astvats asats. Art ararenk mart estmer patkeri yev estmer nmanuchan. Yev ararets Astvats martun yur patkero. Est astu patkeri ararets. Yev der Astvats yerkri hogi.
Thank you.
La disco-pop de ce On The Days, composé par Hamlet Minassian, un Arménien né au nord-ouest de l'Iran et sorti en 1979, juste avant l'arrivée au pouvoir des islamistes à Téhéran, et nouvelle illustration, s'il en fallait, de la vitalité musicale de la diaspora arménienne. L'Arménie qui, ces années 70, voit l'accélération de l'urbanisation. Yerevan dépasse à la fin de la décennie le million d'habitants contre, souvenons-nous, 30 000 à peine en 1920. Par ailleurs, l'industrialisation du pays est spectaculaire, notamment dans le domaine de la chimie ou du nucléaire. De nombreux sites du pays sont classés parmi les plus pollués au monde. En 1976 est construite la centrale de Metsamor, non loin de Yerevan, et surtout à proximité d'une inquiétante faille sismique. L'énergie, dont les réseaux de distribution, englués dans une planification rigide, entraîne l'accroissement de l'économie souterraine. Politiquement, en 1974, la sous-commission des droits de l'homme de l'ONU mentionne pour la première fois le massacre des Arméniens comme le premier génocide du XXe siècle. Le délégué turc s'étrangle et obtient la révision du paragraphe en question. Les années suivantes, une série d'attentats vise des diplomates turcs à travers le monde, faisant une trentaine de victimes. Des attaques revendiquées par deux organisations clandestines arméniennes. En 83, à l'aéroport d'Orly, un attentat organisé contre la Turkish Airlines tue 8 passagers. L'action est vigoureusement dénoncée par les organisations de la diaspora. Ces années-là, s'accroissent les différences d'appréciation entre les Arméniens en exil et ceux de l'intérieur. Archives, Antenne 2, 1985.
La cause arménienne, l'engagement, je le suis depuis que je suis en âge d'être engagée. À 15 ans, j'étais déjà à fond dans les mouvements militants de jeunesse.
Oui. Vous êtes allée en Arménie déjà ?
Oui, je suis allée 3 fois et j'y retournerai. Je suis allée en Arménie soviétique. Je ne suis pas allée de l'autre côté, là, d'où sont originaires mes parents.
Oui. Racontez-nous un peu.
L'Arménie soviétique, on en revient toujours bouleversé un peu sur tous les plans. D'une part parce que c'est un pays où c'est l'Arménie, malgré tout. Puis par ailleurs, ça ne peut pas nous convenir, ça fait mal, ça blesse. Cette année, il y a des gens qui m'ont dit, et ça m'a fait très mal, quelle chance vous avez d'avoir une vie arménienne aussi intense. Parce que là-bas, c'est très dangereux d'avoir une vie arménienne nationale. Et ben, ceux qui ont essayé, même sans militer, sans s'engager politiquement, mais simplement d'avoir des réactions nationalistes, ont été complètement écrasés. Et ça, c'est très douloureux à entendre. Nous qui souffrons, on va là-bas parce qu'on a besoin d'un milieu arménien. Et eux, là-bas, ils nous disent « quelle chance vous avez ». Alors, c'est difficile.
Illustration du schisme grandissant entre les Arméniens de la diaspora, pour qui notamment la reconnaissance du génocide constitue un point incontournable, et ceux de l'intérieur qui, confrontés aux inégalités, à l'oligarchie et à l'arbitraire du pouvoir, estiment qu'il y a plus urgent à obtenir. À cette époque, le cinéaste Sergueï Parajdanov, qui incarnait depuis quelques années le symbole de l'oppression des artistes soviétiques et avait été jeté en prison pour apologie du nationalisme, Parajdanov est libéré en 1982. La glasnost et la perestroïka de Gorbatchev font naître des espoirs. En 87, 100 000 personnes défilent à Yerevan pour réclamer l'attribution de plus de liberté et dénoncer la pollution. L'année 1988 marque un tournant. Il y a d'abord la résurgence des tensions au Haut-Karabagh, une enclave autonome, majoritairement arménienne, située en Azerbaïdjan. Les Arméniens qui s'y trouvent réclament depuis longtemps leur rattachement à la République arménienne. L'armée azérie riposte par un pogrom. Moscou ferme les yeux. Le conflit dégénérera en une longue guerre. Et puis, le 7 décembre 88, la terre tremble. En moins de 8 secondes, une faille s'ouvre sur plus de 20 km au nord de la République. Dans la zone touchée, les logements construits dans les années 70 avec du ciment et du béton de mauvaise qualité s'effondrent comme des dominos. L'Arménie, décidément, n'en a jamais fini avec les drames de masse.
Madame, monsieur, bonsoir. L'ampleur de la tragédie arménienne dépasse toutes les prévisions déjà pessimistes d'hier soir. On parlait de centaines de morts, il y en a des milliers. Le séisme qui a frappé le nord de l'Arménie hier matin a détruit la moitié de la deuxième ville du pays. La région est dévastée. Effet sans précédent, la télévision soviétique diffuse à l'intention de toutes les télés du monde ce reportage diffusé ce soir sur la chaîne d'État. Je vous propose d'écouter ce document dont nous avons traduit le commentaire. Pascal Richard.
Les aiguilles se sont arrêtées au moment où s'est produit cet horrible choc. La deuxième ville d'Arménie est en ruine.
La catastrophe qui fera 30 000 morts déclenche un immense élan de solidarité de la diaspora arménienne à travers le monde. Pourtant, quelques années plus tard, et tandis que se disloquait l'URSS, l'histoire avait enfin accouché d'une bonne nouvelle, l'avènement d'une Arménie indépendante, archive 22 septembre 1991.
Il s'était contenu depuis trop longtemps, ce moment, il l'attendait depuis si longtemps, qu'Erevan, hier soir, s'est offert sa première nuit de folie. Place de la République, ex-place Lénine, 23h, les premiers bureaux de vote viennent tout juste de fermer. La 23e heure du jour le plus long, celui de l'indépendance retrouvée.
Installé à Budapest, le groupe arménien Deti Picasso pour ce Ninare sorti en 2014. Dans la foulée de l'indépendance, le conflit au sujet du Haut-Karabakh avec l'Azerbaïdjan, riche producteur de pétrole et qui, en mesure de rétorsion, coupe les vannes, entraîne une grave crise énergétique en Arménie. Les populations en sont réduites pour se chauffer à aller piller les forêts des alentours de Yerevan. La centrale nucléaire de Metsamor, fermée à la suite du séisme de 1988, est finalement rouverte en 1993. Cette décennie de l'indépendance, le pays affronte surtout une nouvelle émigration massive, 1 million d'habitants en moins, incarnant le nouveau sujet d'inquiétude locale. Enfin libre et indépendante, l'Arménie doit pour la première fois se battre non contre des appétits étrangers, mais contre l'avidité d'une partie des siens qui, sans vergogne, confisquent à leur profit les pouvoirs économiques ou politiques. Fraude électorale, chômage, injustice, inégalité, pauvreté, corruption. Certes, l'expression y est libre, mais la situation politique reste instable. Et puis il y a les querelles entre les Arméniens de l'intérieur et les exilés qui n'en finissent pas d'alimenter les dissensions et les rancœurs. Nostalgie et sentiment de perte semblent décidément indéracinables, même si tout n'est peut-être pas perdu. Ainsi, la joie célébrée par la chanteuse et pianiste de jazz Masha Garibian dans ce Joy Ascension, sorti ce début 2020.
A one, a two, a one, two, three.
Entre les Arméniens et la France, il n'est pas possible d'effacer la trace du génocide qui vous a frappé. Il faut que cela s'inscrive dans la mémoire des hommes.
5 o'clock in the morning, the sun is already moving. The air is slowly filled with a soft light. With half-opened eyes, my heart is so quiet. I know the path that leads to you.
waking dreams made up my mind last night. Turn the key to cross our grooves. One step further to move up the rules. I wait for you at the corner. At the corner of my mind. Tell me, tell me, tell me, tell me that you love me. Cause I've been waiting such a long time. 6 o'clock in the morning. The sun is already shining. The air's foolishly dancing in a ray of light. Eyes open wide, my heart is leaping high. Wait for you at the corner. At the corner of my mind. Oh, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me that you love me. Cause I've been waiting such a long time. 7 o'clock in the morning. It's time for me to be assuming. My heart is fully raging like a volcano. I'm about to blow up. Please call the fireman. No time to lose. The picture's obvious. And I feel it's getting contagious. You won't resist me. Cause I'm glowing. And I just can't hide anymore. Anymore, anymore. My heart is fully raging. I'm about to blow up, please call the fireman. I won't live out loud and tell the world. I can't stand your glance, you have my word. I'm helpless and I'm strong.
Ainsi se referme ce numéro de Jukebox, ce soir, l'Arménie, des montagnes de chagrin. Merci pour ces conseils précieux à Lionel Ostéan et un salut à Shushan Djergaillan. Jukebox à la préparation, c'était Lily Cornaert, Antoine Villos de la discothèque et Marie Chauveau Alina. Rendez-vous sur la page de Jukebox sur franceculture.fr pour télécharger cette émission, retrouver les références des morceaux et des archives et, si vous le souhaitez, nous faire part de vos commentaires. À la technique ce soir, c'était Valérie Lavalla. La réalisation était signée comme chaque semaine Agnès Catou, au micro Amaury Chardot, à samedi 19h pour un prochain Jukebox.